Eh bien moi, Argine, c'est pas parce que c'est Noël, eh bien je peux pas dire du bien de Léona. Moi je l'aime pas Léona, c'est comme ça. Je l'aime pas du tout. Je lui souhaite une très mauvaise année. Tous les malheurs du monde à Léona.
À Noël, Argine dénigra Léona. À Noël, Argine dénigra Léona. Argine n'était vraiment pas une dame de cœur. Prenez un jeu de cartes et vous comprendrez tout.
Radio Libertaire 89,4 MHz, un petit palindrome de Gérard Durand, le gérant du rare. Nous sommes samedi. Je vous avoue une chose, j'ai la trouille de la retraite. Si, parce que le nombre de personnes que j'ai vues dans mon entourage, les gens que je connaissais, qui dans les 6 mois ou 1 an qui suivaient leur retraite sont morts d'un arrêt cardiaque ou d'un truc comme ça, moi ça me fout la trouille. Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits... Je me souviens. Je me souviens que si la légende est plus belle que la réalité, alors imprime la légende. Je me souviens d'avoir vu un jour un enregistrement vidéo de l'Olympiade Jacques Brel en 64, avec la création d'Amsterdam. J'avais plus de 40 ans, et j'ai alors compris que depuis l'âge de 10 ans, c'est en entendant le disque sur l'électrophone de mon père que j'étais persuadé d'avoir vu chanter le grand Jacques, alors que je ne l'avais qu'entendu. Je me souviens que Madame Delabie profitait de son cours d'histoire et de géographie pour dire tout le mal qu'elle pensait des syndicats, haussant la voix pour que l'entende depuis la salle 212 Monsieur Mignard. Monsieur Mignard, l'homme à la barbe, à la pipe et au pull jacquard. Je me souviens que tout reposait dans Ur et dans Jérimadé. Et après, j'ai à peu près tout oublié du poème de Hugo, que pourtant Jean-François m'avait lu plusieurs fois parce que ça racontait des trucs cochons pendant le rêve du vieux Bose. Moi, j'aimais bien le rêve du vieux Bose parce que j'étais amoureux de Ruth. Ruth Lévy en première A. Je me souviens que les barbes à papa se transformaient à volonté, court, long, carré, mince, gros ou rond. Je me souviens du tunnel de Rocancourt, de la patte d'oie d'Herblay, du tunnel de Fourvière, de l'échangeur de Rosny-sous-Bois. Je me souviens que mon père avait passé son permis dans une voiture où il fallait passer le bras par la portière pour indiquer qu'on tournait et dont les essuie-glaces se manœuvraient à la manivelle. Pour tourner à droite, c'était pas la peine de passer le bras par la portière, on tournait puis c'est tout. Je me souviens qu'un don de plaquettes au centre de transfusion de l'hôpital consistait en 5 cycles de 25 minutes avec centrifugeuses, etc. Les conducteurs de la RATP qui venaient donner leur sang sur leur temps de travail apportaient leur cassette VHS à visionner pendant le don. Je me souviens d'une exposition sur la vie de Jésus en Playmobil à l'église de Belleville. Je me souviens que j'avais été vexé de comprendre que j'avais cru avoir un ticket avec Nathalie quand nous avions discuté longuement dans son bureau après la fermeture, tous les autres s'étant éclipsés, alors que Nathalie était juste chargée de me retenir pendant qu'il préparait au café voisin un pot pour mon départ. Je me souviens de fait pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles, fait pipi sur le gazon pour arroser les limaçons. Je me souviens de pluviose, niviose, ventose, brumaire, floréale, prairiale, fructidor, thermidor, et je sais que j'en ai oublié. Je me souviens qu'à l'enterrement de Verlaine, il y avait Bibi la purée et Montesquieu faisant sac, du moins si j'en crois Paul Fort. Je me souviens que Claude était heureux d'habiter en face d'un grand immeuble. Le soir, il se mettait à sa fenêtre quand ses parents regardaient un film sur antenne 2A, et lui, lumière éteinte, il regardait par la fenêtre guettant une à une les voisines d'en face quand elles se dévêtaient dans leur chambre avec parfois un rideau guère opaque et une lumière laissée allumée. Il avait même acheté un téléobjectif pour appareil photo sans appareil photo. J'ai retrouvé Claude. Il n'a plus ses parents. Il passe encore ses journées à la fenêtre, à surveiller qui sort, quand, qui mange à 19h, qui regarde la télévision après minuit, qui a un chat, un chien, et qui passe sa vie à la fenêtre en face de la sienne, à regarder de l'autre côté. Je me souviens que Jérôme avait rencontré Vanina en faisant la queue à la boulangerie. Ils avaient à peu près le même âge, elle s'appelait Vanina à cause de la chanson d'Ève et lui, Jérôme, à cause de ses Jérômes. Oui, Jérôme, c'est moi, dont je n'ai pas changé. Il a acheté un pain au chocolat. Ils ont sympathisé, ils se sont jurés que s'il faisait un enfant sans par erreur, il ne l'appellerait jamais Marie comme dans la chanson de Johnny. C'était en 2003, je crois.
De la Seine, mes pas se promènent, un jour comme celui-là, ou un peu plus que ça. Le ciel était bleu, d'un bleu tellement bleu. Au bord de la Seine, ma pensée se promène, je vais ici ou là, mais vous n'y êtes pas. Le ciel était bleu, d'un bleu. Se démène, elle va ici ou là, un jour comme celui-là. Le ciel était bleu, d'un bleu tellement bleu. Au bord de la Seine, ma peine se promène, je rêve tout bas d'un monde avec toi, d'un ciel aussi bleu, d'un bleu. La vie se démène, ici ou ailleurs, ça fait un peu peur. On n'y voit que du bleu tellement bleu. Au bord de la Seine, un jour de grande peine, vous voilà enfin au bout du chemin. Mais vous me faites un bleu tellement bleu.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, ben ça c'est une chanson de Pascal Loquin, extraite de son album « Entendre le temps qui pousse », Pascal qui officie régulièrement sur l'antenne de Radio Libertaire et des fois même dans cette émission-ci, quand je prends quelques vacances. Ah, aujourd'hui c'est Ariel qui est excusé, je crois, ainsi qu'Elsa, donc en face de moi, j'ai l'impression d'être face à un miroir, quoique, non, les lunettes ont un peu la même forme, il y a plus de cheveux sur le sommet du crâne. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour. Et voilà, pour l'instant, je suis donc seul et je vous ai apporté un livre de Marcel Schwab, les œuvres de Marcel Schwab, et aussi Jean-Marie Pelt, La raison du plus faible. Donc je pourrais vous lire un extrait tout à l'heure. Sinon, que, oui. J'ai apporté aussi quelques disques.
Ben moi, en régie, j'ai, comme d'habitude, des petits envois d'Evelyne et Jean-Marie. Il me semble qu'il y a des poèmes saturniens de Verlaine et un poème d'hier d'Evelyne Tran, par Evelyne Tran. Voilà, puis autre chose encore, mais que voulez-vous, c'est écrit petit sur mon écran d'ordinateur, donc je découvrirai ça on vieillit, en me soulevant et en me tendant en direction du dit écran. On commence tout de suite avec du Schwab ou...
D'accord. Alors, voyons voir. Aurais-je perdu mes marque-pages ne sont pas à leur place. Mince alors. Hop là. Voilà, le pays bleu. Le pays bleu a été écrit, c'est dédié à Oscar Wilde. Dans une ville de province, que je ne saurais plus retrouver, les rues montantes sont vieilles, et les maisons vêtues d'ardoises. La pluie coule le long des pilotis sculptés et ses gouttes tombent à la même place avec le même son. Les petites fenêtres rondes se sont enfoncées dans les murs comme pour se garer des coups. Il n'y a de hardi parmi ces ruelles que le lierre à la pointe des portes et la mousse à la crête des murs. Car les feuilles sombres et luisantes du lierre avancent leurs dents et la mousse ose envelopper les grosses pierres extérieures de son velours jaune. Mais les êtres sont aussi fugitifs que l'ombre des fumées. Là sont encore des fanaux rougeâtres attachés aux linteaux et des chandelles minces dans les chandeliers d'étain, et des paquets d'allumettes soufrées et de petits carreaux pleins d'ombre et de poussière derrière lesquels dorment d'étranges petits flacons où les liqueurs étaient autrefois vertes et bleues. Des cornettes froncées tremblent aux vitres, et parfois on aperçoit de pâles visages d'enfants et des doigts frêles qui agitent un pantin décoloré, une oie de bois ou une balle demi-bariolée. Là, un soir d'hiver, sous un porche noir, une petite main froide se glissa dans la mienne, et une voix d'enfant murmura à mon oreille « Viens !» Nous montâmes un escalier dont les marches vacillaient. Il était tordu en spirale et une corde servait de rampe. Les fenêtres étaient jaunes de lune et une porte solitaire battait, agitée par le vent. La petite main froide me serrait le poignet. Quand nous entrâmes dans la chambre fermée de quatre planches disjointes, avec un loquet de ficelle, une chandelle bruissante fut allumée et fichée dans une bouteille. À côté de moi, tenant ma main, était une fillette de 13 ans. Ses cheveux fins, couleur d'or, tombaient sur ses épaules et ses yeux noirs brillaient de satisfaction. Mais elle était maigre et menue et sa peau avait la nuance que donne la faim. « Je m'appelle Maï, » dit-elle, étendant le doigt. « Pas que t'as eu peur, affreux monstre, quand je t'ai pris la main. » Puis elle me mena autour de la chambre. « Bonjour, ma belle glace, » dit-elle. « Tu es un peu cassée, mais ça ne fait rien. Voilà un ami très gentil que je te présente. « Bonjour, ma vilaine table qui n'a que 3 pattes. Tu es vilaine, mais je t'aime tout de même. « Bonjour, ma cruche qui n'a pas de gueule. » Ça ne m'empêchera pas de t'embrasser pour boire ton eau. Bonjour, mon chez-moi, je te salue syndicalement. Aujourd'hui, j'ai de la société. J'avais mis, je crois, un peu d'argent sur la pauvre table. Maï me sauta au cou. Tu veux bien, dit-elle, je vais chercher un grand pain, un pain de 6 livres. Au revoir, mon cher à moi. Au revoir, mon chez-moi. Soyez sage pendant mon absence, il y a un vieux cahier d'images dans le coin. Elle remonta gravement, le menton sur le pain poudré de farine, les deux bras dessous, et les mains tenant son tablier gonflé, elle fit tout rouler par terre. « Vois-tu, dit-elle, j'ai acheté des marrons, comme ça je ne serai pas en peine, ça bourre, ça nourrit, et j'en ai pour mon hiver. » Elle les rangea un à un à plat dans le tiroir de la table, leur rit avant de le fermer et s'assit sur le lit. Puis elle prit le grand pain et mordit à même le croûton. À mesure qu'elle mangeait, sa petite figure avançait dans la brèche et elle me regardait sans cesse pour voir si je me moquais d'elle. Quand elle eut mangé, elle soupira. « J'avais faim, dit-elle, et Michel aussi probablement. » Où est-il encore, ce garnement ? Tu sais, Michel est un petit garçon très malheureux, qui n'a plus ni mère ni père. Il est affreux, il est bossu. Il m'aide à faire mon feu et va me chercher mon eau. Ça fait qu'il mange avec moi et je lui donne des sous quand j'en ai. On entendit un cliquetis de sabots et la ficelle du loquet tressaillit. Le voilà, dit Maï. Je vis entrer un avorton blême, les mains et le nez noirs de charbon, sa culotte courte ouverte au vent, il me tira la langue et me fit une longue grimace avec sa bouche. « Allons, Michel, reste tranquille, » dit Maï, « tu ferais mieux d'écouter monsieur qui te parle. Va vite !» Michel remonta avec la bouteille de vin doux que je lui demandais. La petite poêle de fonte avait été remplie et allumée. Il y avait un peu de bois de démolition, encore taché de ciment. Les châtaignes rôtissaient sur le couvercle. Maï les avait mordues pour leur donner de l'air. Elles éclataient parfois et Maï les grondait. « Vilain marron, voulez-vous bien ne pas sauter ?» Cependant, elle recousait la doublure de finette d'un corsage. L'aiguille passait avec un crissement doux. La lueur du poil tombait sur ses mains agiles et faisait briller l'étoffe. Michel, accroupi, fermait les yeux à la chaleur. « je couds, dit Maï, j'aurai 5 sous. Bah, »« c'est bien payé. Donne-moi un peu de vin doux, monstre. Bois le fond, je ne veux être ni marié ni pendu. » Dans son langage enfantin, elle me conta sa vie. Elle ne savait ni bien ni mal. Elle avait erré dans la campagne avec d'horribles garçons pour jouer la comédie. À 9 ans, elle était une princesse au fond d'une grange, les pieds nus dans la paille et une couronne de papier d'or sur la tête. Elle savait encore des tirades de ses rôles et m'en récita. « Oh, il y avait une belle pièce, dit-elle. Ça s'appelait, je crois, le Pays bleu. On ne voyait pas qu'il était bleu, mais on se figurait, tu comprends, les montagnes étaient bleues, les arbres bleus, l'herbe bleue et les bêtes bleues. Et je disais, prince, voici le palais de du roi mon père. Il est d'acier fort et la porte de fer rouge, gardée par un dragon à triple gueule. Si vous voulez obtenir ma main... Ouh, c'est un marron qui vient de sauter. Michel, épluche donc les marrons au lieu de dormir. » Est-ce que c'est vrai qu'il y a un pays bleu? Je suis sûr que j'y serai. Mais on a mis en prison tous les gars qui jouaient avec moi. On prétend qu'ils volaient dans les maisons. Un jour, un garde est venu et il leur a dit... ça ne fait rien, je ne me rappelle plus. Mais je ne les ai pas revus. Et depuis, je demeure en ville. Mais c'est triste, il pleut tout le temps. On ne voit que des ardoises et des petites boutiques noires. Ainsi, elle jasait, puis elle se mit en colère. « Michel, je t'ai défendu de salir la chambre avec tes épluchures, ramasse-les. Oh, gueux, tiens !» Elle ôta une bottine et lui jeta la tête. Sa figure était rouge et ses yeux étincelants. « Tu ne peux pas te figurer comme il est méchant, j'en endure avec lui. » Cependant, je dus quitter la petite maille, mais je promis de revenir. Je la voyais chaque jour, et elle cousait sans cesse devant son poêle. Maintenant, elle assemblait de singuliers costumes avec des chiffons de couleur. Sa peau reprenait de la vie. Maï mangeait enfin, mais elle devenait triste à mesure que la misère s'en allait. Elle regardait tomber la pluie. « Monstre, vilain monstre, disait-elle, l'œil vide et les lèvres molles. Une fois, entrebâillant la porte, je la vis devant la glace brisée, ses cheveux d'or sur les seins à peine formés, une couronne de papier découpée avec des ciseaux sur la tête. » Quand elle m'entendit, elle la cacha. Michel est méchant, dit-elle. Il ferait un beau dragon. L'hiver touchait à sa fin. Le ciel était encore sombre, mais quelques rayons faisaient luire le bord des ardoises. La pluie tombait moins drue. Un soir, je trouvai la chambre vide. Il n'y avait plus ni table, ni chaise, ni poêle, ni cruche. Et regardant par la fenêtre, il me sembla que des épaules contournaient, disparaissaient au fond de la cour. Et à la lueur du rat de cave qui me servait pour monter l'escalier, je vis une pancarte épinglée au mur, avec ces mots écrits en grosses lettres. « Bonsoir, mon chez-moi. Maï et Michel sont partis pour le Pays bleu. »
Le sentiment qui convient au mariage est un malentendu mutuel, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. L'abolition de la propriété privée nous rendra un individualisme vrai, beau et sain. Plus personne ne gâchera sa vie à accumuler les choses à leur symbole. Les hommes vivront, vivraient la chose la plus rare qui soit. La plupart des gens se contentent d'exister, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde.
autorité parfaitement avilissante. Elle avilit celui qui l'exerce et celui qui l'a subi. Disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. Une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée une idée. Disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. Les agitateurs sont des gêneurs qui se mêlent de tout et qui viennent semer le mécontentement dans les classes sociales, jusque-là parfaitement contentes de leur sort. C'est justement pourquoi les agitateurs sont si essentiellement nécessaires. Disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. La désobéissance, pour qui connaît l'histoire, est la vertu spécifique de l'homme. C'est par la désobéissance qu'il a progressé. Par la désobéissance et par la révolte. Disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde.
Puisque le texte de Marcel Schwab était dédié à Oscar Wilde, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ni entre les deux ailes d'une statue du père Lachaise. Je suis allé chercher cette chanson clin d'œil à Oscar Wilde. Ce sont des citations en fait extraites des textes d'Oscar Wilde. Et c'est par Gilles Cerizet sur un album qui date de 1981. Un album qui s'intitulait Âme frère, un 33 tours vinyle à l'époque. Il me semble qu'il était tout bleu sur sa couverture. Et on le trouvait à la librairie du Monde Libertaire, on le trouvait dans les studios de Radio Libertaire, et par la suite d'ailleurs on a retrouvé régulièrement Gilles Cerizet dans les studios de Radio Libertaire puisqu'il y a animé une série d'émissions consacrées principalement à la chanson effectivement, et on avait comme ça dans nos stocks quand même des albums de Gilles. Je les ai chez moi, là c'était je vais aller chercher ça sur internet quand même si vous voulez écouter les autres chansons de Gilles Cerizet. Gilles, c'est G-I-L tout court. Et maintenant, allez, petit cadeau cette fois-ci, c'est monsieur Jean-Marie Blanche qui nous livre un poème du pauvre Lélian, Paul Verlaine. C'est l'épilogue des poèmes saturniens.
De Verlaine, j'ai choisi un épilogue, l'épilogue de son livre Poème saturnien. Donc, c'en est fait. Ce livre est clos. Chères idées qui rayez mon ciel gris de vos ailes de feu, dont le vent caressait mes tempes obsédées, vous pouvez revoler vers l'infini bleu. Et toi, vers qui tintait, et toi, rime sonore, et vous, rythme chanteur, et vous, délicieux souvenir, et vous, rêve, et vous encore, image qu'évoquaient mes désirs anxieux, il faut nous séparer. Jusqu'au jour plus propice où nous réunira l'art, notre maître, adieu, adieu doux compagnon, adieu charmant complice, vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. aussi bien. Nous avons fourni notre carrière et le jeune étalon de notre bon plaisir. Tout affolé qu'il est de sa course première, a besoin d'un jeu d'ombre et de quelques loisirs. Car, toujours, nous l'avons fixé, oh poésie, notre astre unique et notre unique passion, t'ayant seul pour guide et compagne choisie, mère, et nous méfiant de l'inspiration. Merci. Et voilà. Et voilà. À suivre. J'en ai d'autres.
Ah, sans doute, hein.
Oui. Non, mais Verlaine, j'en mets pas trop, quand même. J'en mets pas trop d'un coup.
Ouais, faut...
Alors, si vous avez d'autres textes, il reste un quart d'heure. Ben non.
Thank you. et je m'en vais. Au vent mauvais qui m'emporte. De ci, de là, pareil à là.
Bon, là, c'est pas la peine de le dire, effectivement, c'est du Verlaine, et quant à l'interprète ici, eh ben, c'est un certain Jacques H., père d'Arthur Higelin, qui reprenait du Verlaine. Clin d'œil aussi à l'un de ceux qu'il admirait beaucoup, Charles Trenet, qui lui-même avait repris les sanglots longs de Verlaine. Radio Libertaire 89,4 MHz. Michel, tu nous as apporté quelques disques de Gilmer et de sa bande.
Les Jetés de l'encre, oui. J'y ai repensé d'un seul coup. Vu que je le croise de temps en temps, il est toujours, décidé à ne pas se faire trop connaître. Je pense que c'est la seule radio où on l'a pu l'entendre, ça doit être ici. Quand je l'ai invité.
Bon, ben on va l'entendre, puisque là, il suffit que j'appuie sur le bouton.
Au début, il disait qu'on allait se réchauffer. Les savants nous parlaient d'un air catastrophé. Ils nous montraient des ours mourant sur la banquise. Ils avaient annoncé le début des heures de crise. Ils disaient qu'on aurait un désert à Marseille, que bientôt à Paris, il ferait toujours soleil. Mais un jour en hiver, il s'est mis à neiger nuit et jour jusqu'au mois de juillet, du Kilimandjaro jusqu'au nord de l'Irlande. Le climat est devenu pire qu'au Groenland. Heureusement que sur les pôles, toute la glace a fondu, car c'est là-bas que tous les hommes se sont rendus. Moi qui aimais Paris, j'ai pas voulu partir. Je vis dans un igloo vers la rue des Martyrs, à 100 mètres au-dessus d'une calotte de glace, d'où l'on voit que le sommet de la tour Montparnasse. C'est inouï qu'à Paris, on vive comme des Inuits, que les sans-abri émis, les Parisiens en fuite. De temps en temps, l'on voit des convois de scientifiques qui viennent pour comprendre les changements climatiques. Il paraît que sur l'épaule, on se tape pas sur l'épaule, que c'est la guerre tout le temps qui se bat pour du pétrole. C'est pas demain la veille que je quitterai mon igloo. J'ai bien peur que leur monde ne vaille plus un clou. Au début, ils disaient qu'on allait se réchauffer. Les savants nous parlaient d'un air catastrophé. Ils nous montraient des ours mourant sur la banquise. Ils avaient annoncé le début des heures de crise. Ils disaient qu'on aurait un désert à Marseille, que bientôt à Paris, il ferait toujours soleil.
Et ben voilà, c'était Gilmer avec les Jetés de l'encre, extrait de l'album La Caulaincourt. Et bien, si vous souhaitez le voir sur scène bientôt, c'est raté, c'est ça?
Ah, c'est plutôt en été qu'il fait des concerts. Oui. Je vous tiendrai au courant.
Michel, qu'as-tu apporté d'autre?
Jean-Marie Pelt, je vous lis la quatrième de couve, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le livre. Alors, la raison du plus faible, hein, c'est plus de 100, 50 ans après la publication du célèbre ouvrage de Darwin, De l'origine des espèces, Jean-Marie Pell s'emploie à récuser la fameuse loi de la jungle qui, dans une nature réputée cruelle, serait le seul moteur de l'évolution. Il existe bien une raison du plus faible. Tout au long de l'histoire de la vie sur Terre, des premières bactéries jusqu'à l'homme, là où les plus gros n'ont pas su résister aux cataclysmes et aux changements climatiques, ce sont souvent les créatures les plus humbles qui ont survécu. Notre société humaine, dans laquelle règne un esprit de compétition exacerbée, court à la catastrophe. S'il n'entend pas cette leçon de la nature qui fait de l'égoïsme la maladie mortelle des puissants et de la solidarité la force des faibles, un ouvrage fourmillant d'anecdotes puisées au cœur du monde végétal et animal. Voilà. D'ailleurs, je tiens à rajouter que Darwin, dans son ouvrage, ne conclut pas du tout c'est en fait l'idée qu'on se fait, parce que les éditions de Darwin ont toujours été énormément commentées, c'est bien que d'un petit bouquin on arrive à un énorme pavé, et on est gavé de commentaires qui en fait font tout pour nous faire comprendre le contraire de ce qu'il dit, mais la part du hasard et de la est très présente dans les raisonnements de Darwin. Bref, alors voilà, un petit extrait. Les espèces qui s'éteignent. Le mélanisme industriel illustre l'impact des changements de milieu sur les êtres vivants qu'ils abritent. Un équilibre stable entre une espèce et son milieu peut être entièrement détruit lorsque celle-ci se modifie. Ici, par les effets des émissions de poussière noire, une forme longtemps favorisée vit son avantage disparaître et révéla une faiblesse, jusque-là aussi inattendue qu'improbable. De tels mécanismes expliquent les phénomènes d'extinction des espèces dans la nature sous l'influence de changements climatiques, géomorphiques ou même biotiques. Une espèce jusque-là en bon équilibre avec son milieu se trouve alors plus ou moins rapidement menacée. D'autres mécanismes d'extinction peuvent entrer en ligne de compte, comme la perte d'énergie évolutive au sein d'une lignée qui s'éteint alors en douceur par vieillissement, car les espèces vieillissent et meurent, tout comme les individus qui les composent. Enfin, le modèle de la phalène du bouleau apporte un argument décisif à la vision darwinienne de l'évolution, dont la pertinence au niveau de l'espèce est contestable. De là à extrapoler en faisant de cette thèse une sorte de dogme exclusif susceptible d'expliquer l'ensemble des mécanismes évolutifs, il y a un grand pas. Trop de phénomènes dans la nature résistent à tout effort d'interprétation à la lumière du seul modèle darwinien. Que l'on songe aux fameuses orchidées mimétiques dont un pétale se déguise en pseudo-insecte pour mieux attirer un pollinisateur qui croit y voir un partenaire sexuel, il reste sans doute encore beaucoup à découvrir pour comprendre la fabuleuse complexité des mécanismes de l'évolution. Pour ce qui concerne notre propos, l'histoire de la phalène est fort instructive. On n'est pas fort ou faible par nature, tout dépend du milieu. Et chez l'homme, des valeurs auxquelles on se réfère, le fort ou celui qui se croit tel peut s'affaiblir, le faible se renforcer. Aucun statut n'est jamais définitivement acquis. C'est ce que les bouddhistes appellent judicieusement l'impermanence des choses.
Les cailloux qui longtemps après nous vivraient. Vous qui étiez sur terre alors qu'elle n'avait guère tourné. Que vous soyez falaise ou grain de poudre, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Tous vos milliards d'années sont une éternité qui reste. Face à nos vies humaines qui durent le temps à peine d'un geste. Vous qui avez eu tant de temps à moudre, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. De nos murs en poussière, il n'y a que les pierres qui durent. Grains de sable ou gros cailloux, pierres plates ou bijoux d'or pur. Que vous soyez montagne ou diacre, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Vous qui avez connu depuis leur tout début les hommes, de massacre en carnage, ils ont brûlé Carthage et Rome. Vous qui n'aimez ni le feu ni la foudre, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Marbre noir, marbre gris, qui prendrez à l'abri mon corps, pour chanter en silence le temps qui se balance encore. Vous que le temps ne semble pas dissoudre, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Vous les poussières d'étoiles, quand vous prendrez les voiles, partant vers d'autres infinis, craignant ni la nuit ni le temps. Avant que d'être vous aussi de poudre, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Mes frères les cailloux, donc encore les jetés de l'encre de Gilles Maire, avec une belle référence effectivement à Monsieur Villon François de son prénom. On s'offre un petit cadeau de la part d'Evelyne. Il me semble que c'est Evelyne lisant du Evelyne.
Hier absent, et là déjà, cordée sauvage. Hier te cherche comme un bec d'aigle. Hier est une sortie d'oiseau sur le créneau de pierre, moisi et toujours tendre. Hier se balance inquiétude d'arbres volés dans le désert. Hier est une voile sourde au bout du mât crémeux. Il faut que j'y batte des ailes d'une colonne ravie sous mes doigts. Adieu, Dieu aveugle. C'est qu'une chair honteuse a anéanti quelques cercueils où dort le jour multiplié de tes offres. Oui, hier, au-dessus des bouquets, ne te soulève qu'étonné, ô sans bruit, toi qui touches la mort. Hier béni, tu as le béret neuf d'un aventurier dans les cieux, la pierre qui joue avec ton soulier. Hier en fuite, hier demain, hier déjà te cherche, toi qui te crois, goutte d'encre sauvage.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front, souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés, rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers, laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis, voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux.
Eh bien, ça, c'était pour vérifier que Verlaine avait pu être mis en musique par d'autres que Léo Ferré, parce que si tout à l'heure on a passé la conclusion des poèmes saturniens par Jean-Marie Blanche, puis du Verlaine par Jacques Higelin, certains se disent peut-être, il va nous glisser du Verlaine par Ferré. Ben non, on va glisser quelques petits autres détours de ce type. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, deux seules créatures dans le studio aujourd'hui, mais des livres toujours, Michel, une suite
Alors, oui, j'avais pas prévu d'en lire autant. Je pourrais essayer de lire toujours de Schwab une histoire qui s'appelle qui a pour titre Le Sabot. Alors, en fait, je l'ai jamais lu, celle-ci, donc j'espère que je vais pas trop j'espère que ça va bien se passer. Le Sabot. La forêt de Gavre est coupée par 12 grands chemins. La veille de la Toussaint, le soleil rayait encore les feuilles vertes d'une barre sang et or, quand une petite fille errante parut sur la grande route de l'Est. Elle avait un fichu rouge sur la tête, noué sous son menton. Une chemise de toile grise avec un bouton de cuivre, une jupe effilochée, une paire de petits mollets dorés, ronds comme des fuseaux, qui plongeaient dans des sabots garnis de fer. Et lorsqu'elle arriva au grand carrefour, ne sachant où aller, elle s'assit près de la borne kilométrique et se mit à pleurer. Or, la petite fille pleura longtemps, si bien que la nuit couvrait toute chose, tandis que les larmes coulaient entre ses doigts. Les orties laissaient pencher leurs grappes de graines vertes. Les grands chardons fermaient leurs fleurs violettes. La route grise, au loin, grisonnait encore plus dans le brouillard. Sur l'épaule de la petite montèrent tout à coup deux griffes, avec un museau fin, puis un corps velouté tout entier, suivi d'une queue en panache, se nicha dans ses bras, et l'écureuil mit son nez dans sa manche courte de toile. Alors la petite fille se leva et entra sous les arbres, sous des arceaux de branches entrelacées, avec des buissons épineux piqués de prunelles, d'où jaillissaient soudain des noisetiers et des coudriers tout droit vers le ciel. Et au fond d'un de ces berceaux noirs, elle vit deux flammes très rouges. Les poils de l'écureuil se hérissèrent. Quelque chose grinça des dents, et l'écureuil sauta par terre, mais la petite fille avait tant couru par les chemins qu'elle n'avait plus peur, et elle s'avança vers la lumière. Un être extraordinaire était accroupi sous un buisson, avec des yeux enflammés, et une bouche d'un violet sombre. Sur sa tête, deux cornes pointues se dressaient, et il y piquait des noisettes qu'il cueillait sans cesse avec sa longue queue. Il fendait les noisettes avec ses cornes, les épluchait de ses mains sèches et velues, dont l'intérieur était rose, et grinçait des dents pour les manger. Quand il vit la petite fille, il s'arrêta de grignoter et resta à la regarder en clignant continuellement des yeux. « Qui es-tu ? » dit-elle. « Ne vois-tu pas que je suis le diable ? » répondit la bête en se dressant. « Non, monsieur le diable, cria la petite fille, mais oh, ne me faites pas de mal. Ne me fais pas de mal, monsieur le diable. Je ne te connais pas, vois-tu, je n'ai jamais entendu parler de toi. Est-ce que tu es méchant, monsieur ? » Le diable se mit à rire. Il avança ses griffes pointues vers l'enfant et jeta ses noisettes à l'écureuil. Quand il riait, les bouquets de poils qui poussaient dans ses narines et ses oreilles dansaient dans sa figure. « Mon enfant, dit le diable, tu es la bienvenue. J'aime les personnes simples. Tu me fais l'effet d'être une bonne petite fille. Mais tu ne sais pas ton catéchisme. On t'apprendra peut-être plus tard que j'emporte les hommes. Tu vas bien voir que ce n'est pas vrai. Tu ne viendras avec moi que si tu le veux. » Mais dit la petite fille, « Je ne veux pas, diable, tu es vilain, chez toi ça doit être tout noir. Moi, vois-tu, je cours dans le soleil. Sur la route, je ramasse des fleurs, et quelquefois, quand passent des dames ou des messieurs, ils me les prennent pour des sous. Et le soir, il y a des bonnes femmes qui me mettent à coucher dans la paille ou dans le foin. Des fois seulement, ce soir, je n'ai rien mangé parce que nous sommes en forêt. » Et le diable dit, « Écoute, petite fille, tu n'aies pas peur. Je vais te tirer d'affaire. Ton sabot est tombé, remets-le. » Comme il parlait, le diable cueillait une noisette avec sa queue et l'écureuil en croquait une autre. La petite fille glissa son pied mouillé dans le gros sabot et se trouva tout à coup sur la grande route. Le soleil levé dans les bandes rouges et violettes à l'Orient, parmi l'air piquant du matin, la brume flottant encore sur les prés. Il n'y avait plus ni forêt, ni écureuil, ni diable. Un charretier ivre qui passait au galop, emportant une charretée de veau qui meuglait sous une bâche trempée, lui cingla les jambes d'un coup de fouet en manière de salut. Les mésanges, à tête bleue, piaillaient dans les haies d'aubépine, semées de fleurs blanches. La petite fille, étonnée, se mit à marcher. Elle dormit sous une yeuse, à l'angle d'un champ, et le lendemain, elle continua sa route. De chemin en chemin, elle arriva parmi les landes pierreuses où l'air était salé. Et plus loin, elle trouva des carrés de terre, pleins d'eau, saumâtres, avec des meules de sel qui jaunissaient au croisement des levées. Des cublans et des hoche-queues picoraient le crottin sur la route. De larges volées de corbeaux s'abattaient de champ en champ avec des croassements rauques. Un soir, elle trouva assis sur la route un mendiant déguenillé, le front bandé d'une vieille toile, avec un cou sillonné de cordes raides et tordues et des paupières rouges retournées. Quand il la vit arriver, il se leva et lui barra le chemin de ses bras étendus. Elle poussa un cri. Ses deux gros sabots glissèrent sur la passerelle du ruisseau qui coupait la route. La chute et l'effroi la firent pâmer. L'eau, en sifflotant, lui baignait les cheveux. Les araignées rouges couraient entre les feuilles des nénuphars pour la regarder. Les grenouilles vertes accroupies la fixaient en avalant l'air. Cependant, le mendiant se gratta lentement la poitrine avec sa chemise noircie et reprit sa route en traînant la jambe. Peu à peu, le cliquetement de sa sébile contre son bâton s'évanouit. La petite fille se réveilla sous le grand soleil. Elle était meurtrie et ne pouvait remuer son bras droit. Assise sur la passerelle, elle tâchait de résister aux étourdissements. Puis, au loin, sur la route, sonnèrent les grelots d'un cheval. Un peu après, elle entendit le roulement d'une voiture abritant ses yeux du soleil avec la main, elle vit une coiffe blanche qui brillait entre deux blouses bleues. Le char à banc avançait rapidement. Devant trottinait un petit cheval breton au collier garni de grelots avec des plumeaux fournis au-dessus des œillères. Lorsqu'il fut à la hauteur de la petite fille, elle entendit son bras gauche. Elle étendit son bras gauche en suppliant. La femme cria, « Ma fille, dit-on pas une garçaille qui chine ? Arrête donc le cheval, toi, Jean, voir ce qu'elle a. Tiens bon que je descende et qu'il ne se trotte pas. Oh, allons donc, voyons voir ce qui la tient. » Mais lorsqu'elle la regarda, la petite était déjà repartie pour le pays des songes. Le soleil lui avait trop piqué les yeux, et aussi la route blanche, et la douleur sourde de son bras lui avait étranglé le cœur dans la poitrine. « On dirait qu'elle va passer, » souffla la paysanne. « Pauvre chiotte, ça y est, une diote, ou ben qu'elle est mordue par un crocodile, ou un sourd des fois. C'est bien malicieux, ces bêtes-là. Ça court la nuit dans les chemins. Jean, tiens la carne, qu'elle ne se trotte pas. Mathurin, va me donner un coup de main pour la monter. » Et la carriole, la cahota, le le petit cheval trottinant devant avec ses deux plumeaux qui se secouaient chaque fois qu'une mouche lui chatouillait le chanfrein, et la femme, en coiffe blanche, serrée entre les blouses bleues, se tournait de temps à autre vers la petite, encore très pâle. Et elle arriva enfin dans une maison de pêcheurs coiffée de chaume, lequel pêcheur était un des plus conséquents du pays, et avait donc de quoi faire, et pouvait envoyer son poisson au marché dans le cul d'une charrette. Là se termina le voyage de la petite, car elle resta toujours depuis chez ses pêcheurs, et les deux blouses bleues étaient Jean et Mathurin, et la femme en coiffe blanche était la mère Matteau. Et le vieux allait en pêche dans une chaloupe. Or, ils gardèrent la petite fille, pensant qu'elle serait utile pour mener la maison. Et elle fut élevée comme les gars et garçailles des Mathurins, avec les garcettes, les bourrées et les taloches descendirent sur elle bien souvent. Et lorsqu'elle prit de l'âge, à force de raccommoder les filets et de manier les plombs, et de mener les copettes et éplucher les goémons, et laver les cabans, et tremper les bras dans l'eau grasse et dans l'eau salée, ses mains devinrent rouges et éraillées, ses poignets ridés comme le cou d'un lézard, et ses lèvres noires, donc, et sa taille carrée, sa gorge pendante, et ses pieds bien durs et cornés, pour avoir passé maintes fois sur les pustules des cuirs des varechs et les bouquets de moules violacées, qui raclent la peau avec le tranchant de leurs coquilles. De la petite fille de jadis, il ne restait guère sinon des yeux comme des braises et un teint jus de pipe, joues fléchies, molles et tordues, dos courbé par les panerées de sardines. C'était une cheminote devenue bonne à marier. Elle fut donc promise à Jean, et devant que les accordailles eussent teinté par tout le caquet du village, il y avait un bon acompte de prix sur les épousailles. Et ils se marièrent tranquillement. L'homme alla pêcher au chalut et boire au retour des bolets de cidre avec des verrées de rhum. Il n'était pas beau avec sa figure osseuse et un toupet de cheveux jaunes entre deux oreilles pointues. Mais il avait les poings solides. Le lendemain des jours où il était saoul, la Jeanne avait des bleus. Et elle eut une raclée d'enfants accrochés à ses jupes quand elle raclait sur le pas de la porte la marmite au groux. Eux aussi furent élevés comme des gars et garçailles de Mathurin et la garcette. Les journées se passèrent l'une après l'autre, monotones et encore monotones, et débarbouiller les petits et raccommoder les filets et coucher le vieux quand il se rendait plein. Et les bons soirs, des fois, à jouer aux 3-7 avec les commères pendant que la pluie claquait contre les carreaux et que le vent rabattait les brindilles dans l'âtre. Et puis l'homme se perdit à la mai. La Jeanne le pleura dans l'église, elle fut longtemps, la figure raidie et les yeux rouges. Les enfants poussèrent et partirent, qui par-ci, qui par-là. Finalement, elle resta seule, vieille, déquillarde, ratatinée, chevrotante. Elle vivait avec un peu d'argent que lui envoyait un de ses fils, qui était gabier. Et un jour, comme l'aurore poignait les rayons gris qui entrèrent par les carreaux fumeux, éclairèrent l'âtre éteint, et la vieille, qui râlait dans le hoquet de la mort, ses genoux pointus soulevés, ses hardes. Tandis que la dernière bouffée d'air chantait dans sa gorge, on entendait sonner matine et ses yeux obscurcirent tout à coup. Elle sentit qu'il faisait nuit, elle vit qu'elle était dans la forêt du Gavre, elle venait de remettre son sabot, le diable avait cueilli une noisette avec sa queue et l'écureuil achevait d'en croquer une autre. Et elle s'écria de surprise, et se retrouvant toute petite avec son fichu rouge, sa chemise grise et sa jupe déchirée, puis elle s'écria de peur. « Oh !» gémit-elle en faisant le signe de la croix, « tu es le diable, et tu viens m'emporter. »« Tu as fait des progrès, » dit le diable, « tu es libre de venir. »« Comment, » dit-elle, « je ne suis point pécheresse, et ne vas-tu pas me brûler, mon Dieu ?» Non pas, dit le diable. Tu peux vivre ou venir avec moi. Mais Satan, je suis morte. Non pas, dit le diable, tu es vrai. Il est vrai que je t'ai fait vivre toute ta vie, mais pendant l'instant seulement que tu as remis ton sabot, choisis entre la vie que tu as menée et le nouveau voyage que je t'offre. Alors la petite se couvrit les yeux de sa main et pensa. Elle se rappela ses peines et ses ennuis et sa vie triste et grise. Elle se sentit lasse pour tout recommencer. Eh bien, dit-elle au diable, je suis damnée, mais je te suis. Le diable siffla un jet de vapeur blanche de sa bouche violet sombre, enfonça ses griffes dans la jupe de la petite fille et, ouvrant de grandes ailes noires de chauve-souris, monta rapidement au-dessus des arbres de la forêt. Des gerbes de feu rouge jaillissaient comme des fusées de ses cornes. Des bouts de ses ailes et des pointes de ses pieds, la petite pendait inerte comme un oiseau blessé. Mais soudain, 12 coups sonnèrent à l'église de Blain, et de tous les champs sombres montèrent des formes blanches, des femmes et des hommes aux ailes transparentes, et qui volaient doucement dans les airs. Or, c'étaient les saints et saintes dont venait de commencer la fête. Le ciel pâle en était plein, et il resplendissait étrangement. Il resplendissait étrangement. Les saints avaient autour de la tête un halo d'or. Les larmes des saintes et les gouttes de sang qu'elles avaient versées s'étaient changées en diamants et en rubis qui parsemaient leurs robes diaphanes. Et Sainte Madeleine dénoua sur la petite ses cheveux blonds. Le diable se recroquevilla et tomba vers la terre comme une araignée au bout de son fil. Et elle prit l'enfant dans ses bras blancs et dit « Pour Dieu, ta vie, d'une seconde, vaut des dizaines d'années. Il ne connaît point le temps et n'estime que les souffrances. Viens fêter la Toussaint avec nous. » Et les haillons de la petite s'abattirent, et l'un après l'autre, ses deux sabots tombèrent dans le vide de la nuit, et deux ailes éblouissantes jaillirent de ses épaules. Et elle s'envola entre Sainte Marie et Sainte Madeleine, avec un astre vermeil et inconnu, où sont les îles des bienheureux. C'est là qu'un faucheur mystérieux vient tous les soirs avec la lune pour faucille. Et il fauche parmi les prairies l'asphodèle des étoiles scintillantes qu'il sème dans la nuit. Et ben voilà, quand on lit un texte qu'on ne connaît pas, on a des surprises.
Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin, ils ne m'ont pas trouvé malin. Un trouble nouveau sous le nom d'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau, elles ne m'ont pas trouvé beau. Que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi, la mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Priez pour le pauvre Gaspard. Trop tard, qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Priez pour le pauvre Gaspard.
Je suis venu, calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais d'un certain Gaspard. Cher à Verlaine, il se fait tard. Verlaine est mort, pauvre Gaspard. À 20 ans, un souffle nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belle les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais d'un certain Gaspard. Cher à Verlaine, il se fait tard. Verlaine est mort, pauvre Gaspard. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais d'un certain Gaspard. Cher à Verlaine, il se fait tard. Verlaine est mort, pauvre Gaspard. Si je nais trop tôt ou trop tard, qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais d'un certain Gaspard. Cher à Verlaine, il se fait tard. Verlaine est mort, Gaspard Sigy.
Deux approches différentes du texte de Verlaine sur Caspar Hauser, cette inconnu arrivé un jour dans un village dont on ne savait rien, dont on ne sut rien par la suite. Première version par Marc Robin et deuxième version par Maurice Fanon avec le texte légèrement enrichi. Quelques petits « je me souviens ». Je me souviens que Robert Villard a travaillé tant avec Francis Blanche qu'avec Coluche à la radio, parfois sous le sobriquet d'ailleurs de Chichinou. Je me souviens du motard avec sa caméra qui avait suivi la voiture de Jacques Chirac au soir de son élection. Je me souviens des fesses de Michel Polnareff et aussi du chapeau de Dalida assise, jambes écartées sur une chaise, sur une affiche. Je me souviens que le manchard, à qui j'avais donné 2 billets de 50 francs à Vincennes et qui pour fêter ça m'avait invité à boire un verre, s'était plaint. « Putain, 12 balles la bière en terrasse, t'aurais pu choisir un autre troquet, mec !» Je me souviens que la soirée avec Marie-Claude avait tourné court. Après le restaurant chinois, elle m'avait mis à la porte de son studio en 5 minutes. Le glutamate faisait valser son cerveau. Elle voulait chousser seule. J'avais acheté un slip et des chaussettes neuves pour rien. Je me souviens qu'Anne, nous avait raconté qu'elle n'avait des relations qu'avec des mecs qui, je cite, voulaient voir ce que ça faisait de se taper une grosse, mais ne l'invitaient jamais dans les booms, ni au café. Je me souviens qu'avant les vacances, je passais à la boutique de l'IGN, l'Institut Géographique National, rue La Boétie. Je n'avais d'ailleurs pas lu à l'époque le discours de la servitude volontaire. J'allais chercher des cartes au 25 millième. Il fallait ensuite les raccorder convenablement pour reconstituer le trajet des randonnées à venir en évitant les cartes où, en vertu d'un découpage au cordeau de la France, 70% de la carte était de la couleur bleue de l'eau ou de la couleur blanche des zones militaires. Je crois que le pompon revenait à la carte de Ploudalmézo, qui cumulait à la fois une zone militaire et de grandes étendues d'eau. Je me souviens qu'Armand sortait son chien tard le soir et le faisait chier sur les bancs publics en tout bien tout honneur. C'était la seule hauteur à laquelle il pouvait se pencher pour ramasser les crottes de son animal de compagnie et les porter à la poubelle la plus proche. Je me souviens de la chanson des Ramoneurs dans Mary Poppins. Non, pas les Ramoneurs de menhir. Je me souviens du papier buvard, en rose et en bleu, avec des publicités imprimées dessus au recto, tandis qu'au verso s'incrustaient à l'encre violette les dictées de Colette, Jean Giono ou Maurice Carême. Je me souviens de Beauté, le chat de ma sœur, et oui, le nom était emprunté à un livre de Paul Guth. Quand Beauté dormait et qu'on mettait sous son nez une cuillère de rillettes purpors, ce chat se mettait à saliver en mastiquant dans son sommeil. Je me souviens de Maurice Fanon présentant à mes parents sa pianiste Darzy et expliquant sa tristesse visible par le fait que Bobby Lapointe, vous devez connaître, venait de mourir une semaine plus tôt. Ben non, à l'époque, je connaissais pas. Je me souviens des premiers vêtements achetés pour Marie, avant sa naissance. Un manteau avec des petits boutons à gland qu'elle ne mit jamais, un assortiment de 4 t-shirts après sa naissance. Je me souviens des bulldozers de Montigny-les-Cormeilles, envoyés par Robert U. et Adia par la mairie communiste pour virer des campements, on ne disait pas encore des campements de SDF à l'époque. Je me souviens de la vitrine du dératiseur de la place Sainte-Opportune vers Châtelet. Des rangées entières de rats empaillés, des cafards démesurés. Ce fut le premier contact de Valérie avec la capitale. Eh ben, elle trouva ça génial, la petite punkette. Je me souviens du pasteur Doucet, de Yann Pia, de Poulet d'Achary et de quelques autres morts non élucidés. Et pourquoi pas de Coluche, de la tuerie d'Oriol, de Chevaline et du bar du téléphone. Je me souviens d'Agénor avec son accent du sud-ouest, son béret basque évidemment, vantant les bienfaits des pruneaux d'Agen avant le journal d'information radio ou télé. Mais en fait d'ailleurs, c'est quoi les bienfaits des pruneaux d'Agen? Je me souviens des photos de David Hamilton, au flou étudié et au poil pubien entreaperçu. Les filles rêvaient de ressembler aux nymphettes, aux chapeaux et aux grands jupons qui ornaient leurs classeurs. Les garçons rêvaient qu'elles y ressemblent. Et David Hamilton, lui, bon.
J'écrivais des chansons, des petites musiques. J'avais un répertoire plutôt comique. Je crois que j'allais devenir quelqu'un. Mais en 14, ma fiancée en larmes m'a vu partir entre deux gendarmes, le front baissé jusqu'au front de Verdun. La mort dans l'âme, tremblant dans le vacarme, pleurant de peur, pleurant sur mon arme, sautant le mur, volant sur mes fémurs. Quand j'ai voulu me faire la malle, au son du clairon, sous 12 balles, je mourus le dos au mur. Nous les enfants de la papa, de la patrie, on se contrefout de la titi, de la tyrannie. Quand on était tendu, sanglant sur le pavé, le jour de gloire n'est pas près d'arriver. fosse, ils m'ont enfoui, la fosse de ceux qui se sont enfuis. Au milieu de mes amis d'infortune, je fleurissais le champ de déshonneur. Quand un matin de bonheur, ils m'ont déterré sans aucune honte, aucune. C'est en défilant, en levant le nez, qu'à l'Arc de Triomphe ils m'ont emmené. Qu'ils m'ont acclamé comme une idole, moi qui rêvais d'être un chanteur connu. J'ai bonne mine en soldat inconnu, avec des os scellés plein mes gaules. Nous les enfants de la papa de la patrie, on se contrefout de l'attitude, de la tyrannie. Quand on était tendu, sanglant sur le pavé, le jour de gloire n'est pas près d'arriver. Moi qui rêvais de monter à Paris, de chanter au lapin agile d'Harry, si de Bruant et de Gaston Coutet, j'aurais voulu y arriver debout. Enflammer la butte, parler debout, chanter l'anarchie en blouson clouté. Pour bien m'emmerder, ils ont bricolé en lieu et place de mes feux follets. Une flamme au gaz, un gros bec benzène, un truc qui pue, qui jamais ne s'éteint. Les morts aiment le noir dans leur sapin, ou comment voulez-vous qu'on reste zen? Nous les enfants de la papa de la patrie, on se contrefout de la titi, de la tyrannie. Quand on était tendu, sanglant sur le pavé, le jour de gloire n'est pas près d'arriver. De mon trou dans le 16e, loin de ces coins du Paris que j'aime. Plusieurs fois par an, je les entends quand ils remuent leurs épées au nom de la paix, remuent leurs couteaux au fond de ma plaie. Comme quand en 14 ils défilent, je crois, vu l'état du dernier poilu, je crois que bientôt je n'en verrai plus. Mais je crois que jusqu'à la fin des âges, on n'a pas fini de venir me fleurir. C'est pas demain que je pourrai dormir bien en paix sur mes deux cartilages. Nous les enfants de la papa de la patrie, on se contrefout de la titi de la tyrannie. Quand on était tendu sanglant sur le pavé, le jour de gloire n'est pas près d'arriver. Fasse que ma chanson soit un jour connue, que ma petite musique ne vous ait pas déplu. Qu'un jour les défilés militaires soient remplacés par des farandoles, et que l'on m'emmène loin des bagnoles, qu'auprès de ma fiancée l'on me réenterre. Nous les enfants de la papa de la patrie, on se contrefout de la titi de la tyrannie. Quand on était tendu, sanglant sur le pavé, le jour de gloire n'est pas près d'arriver.
Eh bien Michel, on peut dire que tu as eu une bonne idée en apportant ces trois disques que tu as chopés chez toi avant de partir.
Eh oui, oui, oui. C'est vrai, j'ai une mère. Il est un petit peu un art sur les bords, des fois.
Où est-ce qu'on peut trouver les disques de Gilles Maire? Faut le contacter par internet ou... Où il y a un café où on le voit souvent, non?
Je ne sais pas trop. J'y avais conseillé d'essayer d'en déposer à la librairie de... Comment dire, qui se situe rue Amelot, là, Publico. Mais je crois qu'il n'a pas fait pour l'instant. Voilà, je vais lui reparler.
Allez, l'émission se termine dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Libertaire. Ça sera Bulle Noire, magazine du polar, ce me semble, à moins que cette semaine on tombe sur le cinéma d'animation. Non, il me semble que c'est polar. Tiens, j'ai un autre petit cadeau d'Evelyne, on en profite.
Il nous faut regarder derrière la saleté. C'est à l'envers.
Mais normalement.
Derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes et fermées qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle.
Ce que c'est que d'avoir des extraits qui sont sur une clé qui tourne mal.
L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire, il nous faut écouter. L'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Alors, il s'agit d'une chanson de Jacques Brel, qui est un poème également, et...
Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où sera loi ou tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé. Vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Et voilà, ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, presque créatures au singulier pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec, ben tiens, je crois que la semaine prochaine il y aura Evelyne et des invités pour parler théâtre et pour parler d'une pièce, d'un livre, je ne sais plus. Alors j'actualise ma liste et je remonte lire ce que m'a dit Evelyne. Exactement, pour la semaine prochaine, il y aura donc comme invité les comédiens d'une pièce sur Lennon et McCartney, et puis il y aura Anne pour parler effectivement de théâtre. Et Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est tout de suite sur l'antenne, c'est Bulle Noire, magazine du polar, et vous allez découvrir aujourd'hui notre invité...